De Dieu dit Amen.
Amen.
Bonsoir à tout le monde. Alors je vous propose quelques textes qui nous servent de point de départ ce soir. D'abord Marc au chapitre 1er. Nous lisons le verset 14 ainsi que le verset 15. Marc 1er 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, les temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et soulignez bien, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 2 et puis versets 7 à 8. Matthieu chapitre 3, 1 à 2, 7 à 8. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, et encore une fois, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit, et encore une fois, digne de la repentance. Actes des Apôtres chapitre 2. L'église est en train de naître. Pierre, sous l'inspiration, apporte le premier message de la première campagne d'évangélisation de cette église naissante. Et quelque chose se passe. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, et encore une fois, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 3,
le
dernier livre de la Bible. Chapitre 3, verset 3, ainsi que le verset
19e.
Verset 3, le message s'adresse à l'église des Sardes.
Ah, Sardes.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Et encore une fois, réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 19e. Là, c'est à l'église de Laodicée. Mais moi je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle. Et encore une fois, réponds-toi. Quatre messages aujourd'hui oubliés et négligés. Par l'église de mon pays. Hier soir, nous avons essayé de poser les fondements en introduisant et en plaçant les quatre objectifs que visait cet enseignement. Et ce soir, nous voulons aller encore en profondeur pour parler de ces choses qui sont oubliées et négligées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une mise au point dans quatre directions. En rapport avec les phénomènes de l'oubli et de la négligence. La première direction que j'aimerais prendre, je dirais que ce phénomène d'oubli et de négligence n'est pas un phénomène général ou généraliser. Je ne veux pas dire que tout le monde ne parle pas de ces choses, ça serait faux. Ça serait même exagéré. Ça serait une forme de paranoïa. Deuxième mise au point, ce phénomène doublé de négligence n'est pas non plus un phénomène isolé, pratiqué par une minorité négligeable. Là, j'ai touché les deux extrêmes. D'un autre côté, je ne vais pas dire que c'est généralisé. Mais l'autre côté, je ne voudrais pas non plus dire que c'est minable, minimisable, une minorité. Troisième direction que j'aimerais prendre. Sans être ni général et ni minoritaire, ce phénomène est important. Tellement important qu'on ne doit pas le minimiser. Et non seulement important, mais il est en train de prendre encore des proportions. Et c'est pourquoi il faut faire deux choses. La première, c'est tirer la sonnette d'alarme. Faire prendre conscience qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Et pourquoi la prise de conscience est-elle nécessaire? Parce que la prise de conscience n'a jamais été un phénomène collectif. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sonne et puis les autres prennent conscience. Néhémie chapitre 2, au verset 18, la Bible nous parle d'une prise de conscience qui finit par être collective. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifient dans cette bonne résolution. Mais avant que comme des wagons, les autres suivent, il a fallu dans Néhémie 1:17 quelqu'un puisse jouer le rôle des locomotives. Néhémie a dû s'élever et leur dire, voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. C'est lui qui a dû lancer l'invitation. Venez, rébâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tirez la sonnette d'alarme. Mais deuxièmement, appelez à l'action, ou mieux, à une réaction ou à un sursaut. Quatrième direction que je voudrais prendre. J'ai dit ce phénomène n'est pas un phénomène fortuit. Où l'on commence à négliger, où l'on commence à oublier certains messages importants. Ce n'est pas un phénomène fortuit ou accidentel. Ce phénomène a un concepteur et des exécutants. Les concepteurs, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est les diables, l'ennemi de l'Église. Qui a comme objectif, il va amoindrir la force de frappe de l'Église. Il va amoindrir la capacité de l'Église à influencer. Parce que Dieu nous a appelés à être les sels de la terre. Il nous a appelés à être la lumière qui n'est pas cachée sous les boissons, mais placée sur la table. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, ainsi que le verset 28, la Bible nous montre comment ces concepteurs fonctionnent. Parlant de la parabole du blé et de l'ivraie, c'est Christ qui parle dans un champ où le blé avait été planté. Mais lui-même dit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient assoupis, les diables aiment des temps où les gens sont assoupis. Il vint et il s'est livré et s'en alla. Remarquez son intelligence négative qui le fait choisir deux choses. Premièrement, le temps de son action. Il ne vient pas au grand jour. Il ne vient pas quand tout le monde est éveillé. Il choisit un moment où la tension est au rabais. Mais deuxièmement, la qualité de ce qu'il vient s'aimer. Un grain, quand il commence à germer, difficile à différencier avec le blé. Action inconnue, mais réaction visible. Les gens n'ont pas vu quand l'action a eu lieu, mais les effets ont été visibles à un moment.
Église du Congo, nous avons un concepteur qui a des idées contre cette église. Amoindrir ce travail fait au sacrifice des vies de plusieurs pères de l'église. Et Jésus-Christ lui-même expliquant cette parabole dira au verset 38 les champs c'est le monde. La bonne semence ce sont les fils du royaume. Livrés ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé c'est le diable. Mais non seulement il y a un concepteur, mais il y a aussi des exécutants, ceux qui ont oublié et négligé ce message essentiel. Et parmi les exécutants, il y a 5 catégories. La première catégorie des exécutants, ce sont des distraits, ceux qui ne le font pas sciemment. Ils ne parlent plus de ces choses que nous avons commencé à mentionner hier. Non pas par volonté, ils sont distraits. Ils sont emportés par une forme de mode spirituel. De snobisme spirituel. C'est le message qui passe, c'est ce que les gens aiment. Une forme de mode. C'est ce que tout le monde prêche. C'est ce qui passe mieux maintenant. Non, il n'y a pas un problème de ce qui passe mieux. Il y a le vieux message de l'évangile qui est toujours d'actualité. Deuxième catégorie parmi les exécutants. Ce sont des peureux. Ce qui est à cause du modernisme ou de ce que font les autres s'aligne sur une certaine mode. Ils ont difficile à prendre le contre-courant. Si je prêche autre chose, je vais perdre des membres. Si je prêche autre chose, les gens ne vont plus donner des offrandes. Il y a des messages qui n'attirent pas beaucoup l'offrande du prophète. Les paniers de l'offrande du prophète ressort vide comme il est venu. Il y a des messages, on ne vous porte pas en chipo et après on ne suit pas vos chaussures. Mais quelquefois et le plus souvent c'est le message dont l'église a besoin. Seigneur, aide-moi à ne pas être un peureux. Troisième catégorie, parmi les exécutants, ce sont les accidentés sur le chemin du ministère et de la vie chrétienne. Ils ont connu Christ, ils l'ont servi, mais ils ont eu des accidents sur leur chemin. Ils ont fauté, ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Un aîné qui est au Canada m'a dit, il a dit, Roland, il y a des chutes qui te volent les message. Certaines situations, quand tu les vis, tu es toi-même considéré que tu, je ne peux plus parler de ça. Un pasteur qui tombe dans l'impudicité, il aura pas beaucoup de force de condamner cela. Quelqu'un qui vit dans le désordre, il aura difficile à vous parler de la sanctification. Seigneur, aide-moi à ne pas me disqualifier par rapport à certains messages à cause d'un certain style de vie. Il y a des choses, quand vous les vivez, ça vous désarme par rapport à un message. Et vous empêche de parler de certaines choses. Quatrième catégorie plutôt. Parmi les exécutants, ce sont des vendus au diable, des infiltrés dans l'église, et encore mission de l'affaiblir. Ils sont en connexion avec quelques officines. Ils gagnent même en responsabilité jusqu'à occuper certains postes.
Et
leur but, c'est de diluer le message de l'évangile. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 19, l'apôtre dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. J'aimerais dire, tous ceux qui sont au milieu de nous ne sont pas des nôtres. Car il ajoute, car si ils eussent été des nôtres, ils ne seraient pas, ils seraient demeurés avec nous dans la sainte doctrine. On ne juge pas un ministère sur une saison, on le juge sur le long terme. J'entends parler de certains serviteurs de Dieu qui ont mis de côté un certain message en disant, aujourd'hui je comprends mieux l'évangile, Cinquième catégorie parmi les exécutants, ce sont des dominés ou des esclaves d'un système.
Ce
sont des jeunes gens qui sont dans les ministères. Ils aiment Dieu quand ils lisent la Bible, ils l'étudient, ils voient le message central de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils sont sous quelqu'un. Ils travaillent sous la responsabilité de quelqu'un. Qui lui-même soit vendu, il est accidenté. Qui vous oblige à rester dans un message. Un jeune homme dans une église un jour est monté, il a prêché sur la sainteté. Son pasteur lui a dit, bah, sainteté, on a waté. Si tu es sous ma responsabilité, ne prêche plus les choses comme ça. Et que des jeunes gens qui sont comme ça, sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, ils ne peuvent pas dire certaines choses. Seigneur, épargne-moi de faire la censure quand quelqu'un doit monter. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes sous l'autorité d'une telle personne, j'aimerais vous dire, autant que cela dépend de vous, quittez-les. Dominer, écraser, tu sais toi-même, ça je veux dire, ça je ne peux pas dire. Et parmi ce message oublié, négligé, les tout premiers, je dirais même l'un des plus importants, c'est le message de la repentance. Comme nous l'avons vu au travers des 4 textes que nous avons lus. Nous allons étudier ces points dans 4 directions, dans 3 directions plutôt. Premièrement, nous parlerons de la place de la repentance dans le ministère de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ et de l'Église primitive. Et nous verrons que le message de la repentance était le message central de ces 3 ministères. Et deuxième direction que nous prendrons. Nous parlerons de l'absence de la repentance, du message de la repentance dans l'église et ses conséquences. Et nous terminerons par la vraie signification de la repentance, ce qu'elle est et les étapes de la vraie repentance. La repentance est le message le plus important, incontournable dans le message chrétien. Ce message est important et incontournable pour 3 raisons. C'est ce message qui permet un retour de l'être humain vers Dieu pour établir avec lui, avec le Créateur, une relation solide. Sans ce message, pas de retour vers Dieu. Deuxièmement, ce message est important et incontournable, parce qu'il est indispensable pour le salut éternel. Sans ce message, pas salut de salut éternel. On peut obtenir beaucoup de choses, mais on peut manquer ce qui est essentiel. Troisième, qui rend ce message important et incontournable, ça permet de garder les standards de l'église. Une qualité de vie qui fait que l'église puisse avoir un impact dans le temps. La repentance ou le message de la repentance, c'est la porte qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, en relation avec les créateurs. Mais c'est aussi le message qui nous aide à maintenir cette communion. C'est pourquoi nous verrons que le message de la repentance n'est pas seulement pour la conversion, mais le message de la repentance aussi est nécessaire pour maintenir la conversion. C'est le point d'entrée qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Mais comme nous le verrons demain, ça nous aide encore à abandonner les œuvres mortes. Luc chapitre 13, verset 3, ainsi que verset 5, Christ le répète à un groupe de personnes. Non, je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Pas de vie éternelle sans repentance. Français courant dit, si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez. Parole de vie dit, changez votre vie, sinon vous allez périr comme les autres. La colombe dit, si vous ne changez pas radicalement, vous périrez. Ces passages que nous avons lus au départ,
Matthieu 3, 1
à 2,
Matthieu 7
à 8, Marc 1er 4 à 5 et 14 à 15 nous montre la place centrale que le message de la repentance a occupé dans le ministère et de Jean-Baptiste et de Christ. Parlant de Jean-Baptiste, la Bible déclare, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'avait pas 8 messages, il n'en avait pas 5, il n'en avait pas même 2, il en avait un seul, repentez-vous. Matthieu 3, 7, il insiste sur le fait de produire des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre
4,
au verset 17, parlons du ministère de Jésus.
Dès
qu'il a commencé à écouter ce que la Bible dit, dès ce moment, il commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Marc 1er verset 5 parle des effets de ce message. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendront auprès de lui, c'est de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Écoutez ce que Marc chapitre 6, verset 12 à 13 ajoute, parlant du moment où Jésus a envoyé comme en TP, en travaux pratiques, ses disciples deux à deux. Le verset 13 dit, ils chassaient beaucoup de démons, ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.
Mais
le verset 12 commence par dire, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. La repentance d'abord. Les démons chassés après. L'onction d'huile pour guérir les malades après. Mais d'abord encore la repentance. Luc chapitre 24, 45 à 47, avant son départ, avant qu'il puisse laisser la mission aux 11 qui étaient restés fidèles, il replace encore ce message de la repentance au centre. Alors il leur ouvrit les yeux, l'esprit plutôt, afin qu'ils comprirent les écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas apporté un autre message. Acte 2, 38 que nous avons lu, la multitude qui était venue en pèlerinage, ils ont vu ces choses bizarres. Ils ont été attirés. Ils ont cru que ces hommes avaient pris du vin doux. Et Pierre s'est mis à parler. L'abbé dit, le cœur vivement touché. Et quand ils disent, hommes, frères, que devons-nous faire? Encore ce message. Répentez-vous. Répentez-vous. Encore la repentance. Juste quelques jours après. Certains parlent même quelques heures. Juste quelques temps. Il a la possibilité de prier pour un paralytique de naissance. Et quand ce paralytique est guéri, il place encore le message de la repentance au centre. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péché soit effacé. Et j'aime ce qu'il ajoute. Afin que le temps de rafraîchissement arrive. J'aimerais dire, il n'y a pas mieux que la repentance pour apporter des temps de rafraîchissement. Vous vous sentez bien à l'intérieur. C'est Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Des années plus tard. Quasiment 30 ans après. Vous qui dites que ce message n'est pas ou n'est plus d'actualité. Actes des Apôtres chapitre 17. Au verset 30. L'apôtre Paul parlant et enseignant à l'aéropage à Athènes. Il montre le cœur de Dieu. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est ça son rêve. Que des hommes et des femmes se repentent. La question que je vous pose, vous êtes dans les ministères, vous êtes dans l'église depuis quelques années, vous prêchez comme moi, vous avez une carte de membre, vous êtes partenaire. Est-ce que vous êtes passé par la repentance? Est-ce que vous êtes passé par ce chemin d'annoncer à tous les hommes qu'ils ont à se repentir? Actes des Apôtres chapitre 20 au verset 21, Paul prenant congé des anciens de l'église d'Éphèse leur montre le cœur de son message. Il a dit, annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'a été mon ministère. Toujours l'apôtre Paul, dans Actes 26, au verset 20, devant le roi Agrippa, résumant un peu son parcours ministériel de plus de 30 ans, il dira à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion. Homme de Dieu, tu prêches quel message? La dernière fois que tu as prêché la repentance, c'est quoi? C'est quand? C'est à quelle occasion? Tu prêches tout sauf ce qui est essentiel. Tu apportes aux gens tout ce qui est secondaire sauf ce qui est primordial. Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Qu'est-ce que l'absence du message de la repentance apporte dans une église comme conséquence? Avant de parler de ça, je me dis que le message de la repentance n'est pas optionnel. Si on est un vrai ministre de Dieu, c'est une obligation. Il est important en trois titres. Premièrement, il fait entrer les gens dans les royaumes des cieux. Il les fait devenir enfants de Dieu. Comme Jean chapitre 1 verset 12 le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela par le message de la repentance. Si tu ne prêches pas ce message, tu peux avoir des adhérents à une église locale, mais qui n'appartiennent pas au corps mystique de Christ. Important. Deuxième chose, ce message provoque une fête dans les ciels. Luc chapitre 15. Au verset 7, puis verset 23-24 nous le montre. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Homme de Dieu, la dernière fois qu'il y a eu fête au ciel à cause de ton message, c'est quand? Où le ciel se réjouit. Parce que quelqu'un a quitté le train qui allait tout droit vers la perdition éternelle. Et il est entré dans le train qui va vers l'éternité. Et le ciel se réjouit. La dernière fois qu'à cause de toi quelque chose de comme ça a eu lieu, c'est quand? Le verset 23 et 24 du même chapitre. Dans l'image du Père qui voit son Fils revenir. Écoutez la joie. Amenez les faux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon Fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Il avait dit, commencez à se réjouir. Seigneur, aide-moi à être ce prédicateur qui pourra provoque la fête au ciel. Troisième raison qui fait de ce message un message incontournable. Il aide les chrétiens à se débarrasser des mauvaises choses et aller vers la stature parfaite de Christ. Ce qui me fait dire que le message de la repentance ne concerne pas simplement les perdus. Il concerne aussi les sauvés. C'est un message qui participe à la sanctification. Nous en parlerons demain. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9h. J'ai jamais oublié. Mais j'oublie jamais chaque challenge que j'avais dimanche après dimanche quand le feu Jacques André Vernon prêchait sur la sainteté. J'en parlerai demain. J'avais déjà acquis la sainteté de position. Du fait que j'avais accepté Christ. Mais j'avais besoin de la sainteté des conditions. Que la Bible appelle la sanctification. Et ce sont ces messages de chaque jour qui m'ont challengé en tant que jeune converti. J'étais jeune dans la foi. J'avais déjà accepté Christ. Mais je tombais dans le mensonge. J'ai regardé le film pornographique. J'ai pleuré, mais j'ai retombé dans ces choses. J'étais esclave de la masturbation. J'ai conscience. La première année et demie de ma conversion, je me suis battu avec cette faiblesse de manière cyclique. Dieu merci, le premier message que j'ai reçu après ma conversion, ce n'était pas la prospérité. Parce que je me battais avec la masturbation, si on m'avait parlé de la prospérité, j'allais manquer des choses. Je me souviens quelquefois, dimanche, les cultes finis, je continuais à pleurer, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Je disais, Seigneur, je ne veux plus de ces choses. J'oublie jamais ce jour, le feu Jacques-André Vernon a prêché sur Daniel 1:8. Il résolut dans son cœur. premières années de ma conversion, j'avais pas toutes les bases théologiques. Je pensais que Jésus faisait des allers-retours dans notre cœur. Quand on péchait, il sortait et il fallait le faire revenir. De telle sorte que chaque dimanche, je recevais Christ. Il suffisait qu'on change la formule de l'appel et je me levais. J'oublie jamais le fait, j'arrive vers nous m'appeler, je me ferai, toi tu reçois Jésus chaque fois. J'ai dû lui expliquer. Mais ce message dur m'a fait du bien. J'ai pas reçu du sucré, du bonbon au départ. J'ai reçu de la quinine qui m'a soigné à vie. Qu'il est triste des jeunes filles qui ont reçu Christ mais qui sortent avec, et la 22 ans sortent avec Papa Mutombo et personne ne lui parle, laisse le mari d'autrui. On lui dit simplement sème et tu auras. Et qu'est-ce qu'elle va s'aimer? L'argent de la prostitution. Donne-nous quelqu'un qui va dire, si tu as cet argent, ne mets pas cet argent dans ce panier. Va avec dehors. Il est quelquefois nécessaire que les gens sortent du culte fâchés contre les prédicateurs. Il est bon quelquefois quand les prédicateurs prêchent que quelqu'un dise Alinga la Kisanini, j'aimerais te dire Nazo la Kselo Rote Nazo Teayo.
Amen. Pour qui c'est bon?
Comme disait un homme de Dieu, les messages sont devenus sucrés. Tellement sucrés que l'église du Congo souffre de diabète spirituel. Donne-nous des hommes qui sortent de la sainte présence de Dieu et qui peuvent vous pointer du doigt et dire ton péché t'atteindra. Donne-nous des thèmes, des messages comme au temps de la réveil. Au temps du réveil. Quand Charles Finet s'éteignait, il disait, écoutez les thèmes de mon message. Les pécheurs endurcis entre les mains d'un Dieu courroucé.
Quel thème?
J'oublie jamais un premier dimanche de l'année.
89
ou 90. Les faits Jacques-André Vernon montent avec solennité comme ils savaient marcher.
J'ai
dit en ce premier dimanche d'élan. J'ai pas su ce qu'il fallait prêcher. Lundi, j'ai prié, le ciel est resté silencieux. Mardi, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je prêche, le ciel est resté silencieux. Mercredi, jeudi, vendredi,
maman.
Et subitement, samedi, Dieu m'a parlé.
Il
a fait une pause de 5 secondes, on avait l'impression que c'était 1000 ans.
Il
dit, si vous voulez connaître le thème de mon message aujourd'hui, il
point
du doigt que je vous crève tous l'œil droit.
Et
quelqu'un qui était là devant caché son
œil.
Le message de la repentance aide les chrétiens à se débarrasser de mauvaises choses. Aller vers la stature parfaite de
Christ.
Romains 8, 29 montre la volonté finale de Dieu pour tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. C'est être semblable à l'image de son Fils. Et c'est ce genre de message qui nous transforme.
Ephésiens
chapitre 4 verset
13
nous parle du rôle des ministères, nous amener à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Oh, c'est pas seulement le message de la repentance qui contribue à ça, mais c'est principalement ça. Ça nous transforme à l'image de Christ. Ah, j'oublie jamais un aîné qui est pasteur maintenant en Banzangungu. Un moment, il nous a prêché à la jeunesse une semaine sans péché. Et on essaie de faire un effort avec la grâce de Dieu. Marcher n'est pas péché. Quelle joie!
J'ai
encore en mémoire quand nous venions au retrait de la jeunesse. À la base, nous restions une semaine. On avait l'impression qu'on était au ciel. Et quand on voulait rentrer, on dit: je vais encore rentrer en enfer. Je vais rencontrer les péchés.
On
avait vraiment la certitude que la vie avait changé. Et pour que ce message, la repentance, soit parvienne aux enfants de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Acte chapitre 8, verset 13, ainsi que 22 à 23, nous montre que la conversion ne résout pas tout. Il faut après la conversion continuer au message de la repentance. Le verset 13 dit:
les
Simon appelait les magiciens. Il a vu Philippe enseigner en Samarie. Il avait dit: Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il a cru. Il est devenu disciple de Philippe. Mais quand il voit Pierre venir prêcher, imposer les mains aux gens, il lui fait la demande: ce que toi tu accordes aux gens, accorde-les-moi même si je peux acheter ça. J'aime ce que Pierre lui dit. Inconverti. Réponds-toi donc. Réponds-toi de ta méchanceté. Il y a un homme de Dieu qui doit se répandre de la pornographie. Réponds-toi de la tricherie. Réponds-toi du vol. J'oublie jamais, je me suis retrouvé dans une église. Je prêchais sur Ananias et Saphira, je parlais de l'amour de l'argent. Et à la fin, Dieu m'a conduit, il m'a dit: il y a un homme ici qui est dans l'église, qui est responsable, qui est au protocole, je prie que ce ne soit pas le cas à Philadelphie, qui vole l'argent des offrandes. Dieu m'a montré les trois derniers montants qu'il avait volés.
Vous savez,
quand Dieu veut vous coincer, il va dans les précisions. Cet homme me dira à la fin: j'ai fait pipi dans les habits. Je l'ai pris à l'écran, je dis: pourquoi tu fais ça? Il dit: écoutez les excuses que je trouve. J'ai dit: cet argent c'est pour les Lévites, et en tant que Lévite je prends ma part.
Je dis prends-le au grand jour.
Et il s'est mis à pleurer. Simon qui a cru. Mais vu qu'il avait encore besoin d'un message de la repentance. Réponds-toi donc. Et laisse ta méchanceté. Prie pour que le Seigneur ouvre les pensées de ton cœur et que celles-ci soient pardonnées.
Et
écoutez la suite. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Français courant dit: tu es prisonnier du péché. Parole de vie dit: tu es rempli d'envie et de mauvaises pensées. Quand la version Louis II dit: réponds-toi donc de ta méchanceté. Parole de vie dit: ce que tu fais est mal. Reconnais-les. Et prie le Seigneur de t'en débarrasser. l'absence de la repentance et de ce message important a tendance à amener 6 conséquences au total. Quand ce message n'est pas enseigné, la première conséquence, nos églises sont remplies des adhérents, mais pas de personnes sauvées. Plein d'adhérents, comme dans un club de quartier. Deuxième conséquence qui arrive quand ce message n'est pas enseigné. Nos églises sont remplies de gens actifs dans l'œuvre de Dieu. Et même opérant des signes et des prodiges. Mais qui vivent loin de Dieu. Comme Christ le dira dans Matthieu 7, 23. Un
groupe
de gens qui produisaient des signes et des prodiges. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Troisième conséquence qui arrive lorsque ce message n'est pas prêché. Nos églises sont remplies de personnes prospères sur le plan matériel, comme les personnes de l'église de Laodicée, mais pauvres spirituellement. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux spirituellement. Misérable spirituellement. Pauvre spirituellement. Aveugle spirituellement. Nu spirituellement. Mais riche et entre guillemets prospère sur le plan matériel. Quatrième conséquence qui arrive lorsque ce message n'est pas prêché. Nos églises seront remplies de personnes qui, comme cette église qui nous est montrée, 1 Corinthiens 5, verset
1er,
où il y aura le monde dans l'église.
Et
des fois pire que le monde. L'église de Corinthe était remplie de dons spirituels et de connaissances. Mais les commentateurs disent au départ, les fondements n'ont pas été le message de la repentance. Et l'apôtre dira, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et même une impudicité telle qu'elle se rencontre même pas chez les païens. Pourquoi c'était la connaissance? Les dons spirituels. Mais l'essentiel n'était pas touché. J'aimerais dire, les gens vivent ce qu'on leur enseigne. L'enseignement influence la qualité de vie. Cinquième conséquence qui arrive lorsque ce message n'est pas prêché. Notre église sera un conglomérat des religieux et même une caverne de voleurs, des gens qui font toutes sortes de coups bas. Cela me rappelle Jérémie chapitre 7 verset 8 à 11, où Dieu a dû envoyer les prophètes, non pas chez les païens, mais à la porte du temple. Il dit, voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Vous dérobez, vous tuez, vous commettez adultère, vous jurez faussement, vous offrez de l'encens à Baal, vous allez après d'autres dieux que vos pères n'ont pas connus. Vous venez vous présenter devant moi dans ce lieu où mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Il dit, afin que vous commettiez encore d'autres abominations. Et il dit au verset 11, cette maison était à vos yeux une caverne de voleurs. Je le vois moi-même. Sixième conséquence qui arrive lorsque ce message n'est pas prêché. L'église sera remplie d'hommes et de femmes ayant le nom de Dieu sur leurs lèvres, mais sans la vie qui fait la différence. Le prophète dira, ils m'honorent de l'œuvre, mais leur cœur éloigné de moi. Seigneur, donne-nous une église où le message de la repentance, de la sanctification soit annoncé et qui amène à une qualité de vie qui va nous aider à vivre. Acte 5 au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit, les gens disaient de l'église primitive. Aucun n'osait se joindre à eux. Mais on les louait hautement. Une autre version dit on les prenait en haute estime. À cause de leur qualité de vie. À cause de leur qualité de vie. Seigneur, que l'église redevienne église. Je suis allé au Nigeria, j'ai été choqué, challengé. Je suivais un jour un communiqué à la télévision. On était en train de recruter les comptables, les trésoriers, bref, tous ceux qui s'occupent des finances. Et on disait que le concours est ouvert à tout le monde. Mais priorité aux membres d'une église qu'on appelle Deep Life. Leur pasteur s'appelle Kumui. Son message, c'est la repentance, la sanctification. Et les gens de son église sont réputés pour la probité morale. On était avec H majuscule. Si pour toi appartenir à Christ ne produit pas certaines choses, je doute de ta conversion. Ma mère me disait, si un chat prétend qu'il est converti, il faut demander le témoignage aux souris. Les souris doivent témoigner avant ils sautaient sur nous. Mais désormais, quand ils nous voient, ils disent shalom. On se demande, mais qui n'y a où est-ce
où est parti son chat?
Merci. Avant de clore ce point, j'aimerais mentionner une vérité importante. La vie des gens est attachée proportionnelle au message qu'ils reçoivent. Même l'apôtre Paul a eu besoin de repentance. Parce qu'il a eu un messager en face. Acte 23, verset 4 à 5. Il s'est mal comporté devant les souverains sacrificateurs. Mais un prédicateur lui a rappelé, il est écrit, tu n'iras pas du mal du chef de ton peuple. Et lui-même s'est répandu. Seigneur, aide-nous. Avant de finir ce soir, c'est quoi la repentance? Quelle est sa vraie signification? Quelles sont ses étapes? Quelles sont les phases de la repentance? De manière simple, la repentance peut être définie comme étant le processus par lequel Dieu appelle les hommes à prendre conscience de leurs péchés, de leurs mauvais états et de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises marches et de revenir à lui. Les mots repentance, ça vient du grec metanoia, qui veut dire trois choses. Premièrement, changer de mentalité. Deuxièmement, changer d'intention. Changer dans ce qui pousse à faire et qui guide les faits. Pas dans les faits, dans ce qui guide cela. Troisième signification de métanoïa. Changer de façon de se comporter en changeant d'abord la façon de penser. Quatre choses importantes sont attachées à la repentance. La première est la Dieu comme auteur. Philippiens 2, 13 dit, c'est lui qui crée en nous de vouloir et les faire.
Actes 11,
au verset 18, Pierre dit, c'est Dieu qui a accordé la repentance aux païens. C'est quand il parlait de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Une autre version dit, il les a rendus capables de se repentir. Jean 6, au verset 44, il est dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. C'est lui le bénéficiaire, mais c'est lui qui les provoque aussi.
De
Timothée chapitre 2, au verset 25, parle de Dieu qui donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Deuxième chose, Dieu aime la repentance et l'encourage. Car c'est le moyen par lequel il nous sauve dans le temps et dans l'éternité. C'est le moyen par lequel il arrête et il empêche les jugements dans le temps et dans l'éternité de s'abattre sur nous.
De
Pierre chapitre 3, au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. C'est son rêve, c'est son souhait. Pas que moi, Roland Dalo, pas que toi, tu restes dans les mal. Mais que nous arrivions à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Parle de la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Troisième chose, la repentance n'est pratiquée que s'il est annoncé. Acte 20, verset 21, parle de Paul qui a annoncé aux Juifs ainsi qu'aux Grecs la repentance envers Dieu. Ils l'ont pratiqué parce qu'il est leur a annoncé. Acte chapitre 3, la Bible parle de 3000 qui ont accepté la parole. Acte 2, plutôt verset 41. Les 3000 qui se sont repentis le premier jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que ça a été annoncé. Quatrième chose sur laquelle j'aimerais rester un petit moment, c'est que la repentance est le produit de l'action de la parole de Dieu, mais accompagné de l'action du Saint-Esprit, qui produit au départ deux choses préliminaires et puis six autres choses de manière chronologique. Les deux premières choses préliminaires qui produit la repentance, ça touche notre intellect, ça nous amène à comprendre avec notre intelligence nos mauvaises actions. Mais deuxième chose préliminaire, ça touche notre homme intérieur, nos émotions. Quand les messages de la repentance est annoncé, je comprends que j'agis mal, mais mes émotions sont aussi touchées. Acte 2, verset 37.
Et
après avoir entendu ce discours, qu'est-ce que j'aime ça? Ils eurent le cœur vivement touché. La colombe dit le cœur transpercé. Tob dit bouleversé. Français courant dit profondément bouleversé. Parole de vie dit furent émus. Les messages de la repentance. Un ami du feu, Jacques André Vernon, nous relate.
Un
jour, il était en train de prêcher sur les derniers jours. Et les conséquences dans l'éternité si on ne se convertit pas. Message de 60 minutes.
Mais
à la 30e minute, quelqu'un s'est levé venant du fond. Il a commencé à s'avancer. Le protocole voulait l'arrêter. Il a repoussé. Il est venu se tenir devant le prédicateur et dit arrête de prêcher. Il dit fais-moi accepter Christ. Je sens que si tu ne le fais pas, je vais mourir. Cœur transpercé. Cœur secoué. Les larmes ont disparu dans l'église du Seigneur. Où sont les gens qui pleurent pour les péchés? Ça touche notre intellect. Ça touche nos émotions. Et puis dans l'ordre vient ces choses. La première, c'est la prise de conscience de sa perdition accompagnée d'une grande tristesse. Prise de conscience de cela accompagnée de la tristesse. Cette tristesse est vis-à-vis de Dieu, du Dieu saint.
Dont
on n'a pas respecté ce qu'il nous demande de faire. Mais vis-à-vis de soi-même. Luc 18, verset 13. Parle d'une attitude qui a disparu dans l'église. Les publicains se tenaient à distance.
Ils
n'osaient même pas lever les yeux. Mais ils s'est frappé la poitrine en disant
oh
Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Tristesse. Dans 2 Corinthiens 7,
versets
9 à 10, Paul dit quelque chose de
profond.
Je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristé. Mais laissez que votre tristesse vous apporte à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. Il ajoute au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut.
On
ne se répand jamais. J'oublie jamais ce jour, le pasteur Vernon a prêché un message fort. À la fin, il nous a chassés. Que personne ne reste rentré. Il y avait la tristesse partout. Cette prise de conscience s'accompagne des larmes, des pleurs. Fait manquer la paix et même le sommeil.
Psaume 51,
verset
5.
On voit cette tristesse. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Luc 22, verset 62. La Bible est parlant de Pierre. Il est dit, il est sorti, il a pleuré amèrement. Luc chapitre 7. Au verset 38. Parlons de la femme pécheresse. L'abbé dit elle pleurait. Elle mouilla les pieds du maître par ses larmes.
Denrée
rare aujourd'hui à l'église. Les seules larmes qu'il y a, c'est pour le mariage. Les larmes pour les péchés ont disparu. Deuxième étape. C'est la confession. Reconnaître et avouer à Dieu ses mauvaises actions. Ah, j'aime quand le psalmiste dit, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'aime encore quand les fils perdus. Dans Luc 15, 18. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je péché contre les ciels. Et contre toi. Troisième étape. La réalisation des conséquences de son acte ou de ses actes. Qui amène à être prêt à accepter le verdict de Dieu au cas où il ne pardonnait pas.
Psaume
51, verset 6. Je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement.
Luc
15-19. Il sait qu'il a fauté. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quatrième étape dans la chronologie. La sollicitation de la grâce de Dieu. Seule base du pardon. Psaume 51, verset 11. Il dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Luc 18, 13, que nous avons lu concernant les publicains. Non seulement qu'il ne levait pas la tête, mais il a sollicité la grâce soit apaisée envers moi. Cinquième et avant-dernière étape. La décision d'abandonner les mal. Car la vraie repentance nous fait voir non seulement notre mal vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi ses conséquences. Et cela produit et doit produire un dégoût du mal, la rupture avec les mauvaises habitudes. Psaume 51, verset 12. Après avoir sollicité le pardon de Dieu, le psalmiste dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Proverbe 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui, un, les avoue. Deux, les délaisse. Il obtient miséricorde. Sixième et dernière étape. La soumission à Dieu pour la suite de la marche. Ayant connu ce que le péché est. Et le mal qu'il peut faire à Dieu et à nous-mêmes. Conscient de cela, on s'est dit, j'aimerais me soumettre à Dieu pour ne pas revenir dans les mêmes choses.
Psaume 51,
verset
14.
Le psalmiste dit qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Notez ces trois dernières choses et puis nous prions.
Et
la première, la repentance peut être éloignée des fautes et du péché dans les temps. La repentance peut se faire aujourd'hui pour des choses qu'on a fait il y a longtemps. Je prie que Dieu aide quelqu'un qui n'a jamais passé par ce chemin, qui la rend certaines choses.
2 Samuel chapitre 24,
verset 4 ainsi que verset
10,
nous parle de David qui persiste dans son élan à aller dans une direction que Dieu ne voulait pas faire, les dénombrements. Les rapports lui ont donné 9 mois et 21 jours après. Entre temps, chaque jour, il allait au temple, il célébrait, il chantait. Mais c'est quand les rapports lui ont donné, David dit, sentit son cœur battre. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Je
ne
viens pas de pécher maintenant. Je le fais avant. On peut marcher dans les péchés des fois et ne pas être conscient. Combien de gens vivent une vie double et se consolent. Tu triches avec le mari d'autrui et tu trouves toutes sortes d'excuses. Je prie que l'Esprit de Dieu te mette mal à l'aise. Tu sers Dieu mais tu es esclave de la pornographie. Je prie que l'Esprit de Dieu te secoue. Qui te fasse manquer de paix. Luc 22, 61-62. La première fois où Pierre a déjà mal agi, c'est 6 heures avant. Il a régné le maître à 3 reprises. Conscience tranquille. Et c'est réchauffant. Il a fallu que le maître les regarde quand les coqs a chanté. Et qu'il puisse sortir et pleurer amèrement. Seigneur, donne-moi ce soir avant de quitter cet endroit des larmes. Des larmes de repentance. Deuxième et avant-dernière chose. La repentance suspend la colère et le jugement de Dieu. Ça apporte le bonheur et le soulagement dans les temps et dans l'éternité. 2 Samuel 12, verset 13. Lorsque Nathan a pointé David du doigt en disant « Tu es cet homme-là », David dit
«
J'ai péché contre l'Éternel ». J'aime la suite. Et Nathan dit à David
«
L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». La repentance arrête les jugements de Dieu. Seigneur, aide-moi quelqu'un ce soir qui va enlever le peu de Damoclès suspendu sur sa tête. 1 Rois chapitre 21, 27 à 29. Nous parle même du mauvais roi Akab qui s'est repenti et Dieu a différé les jugements. Psaume 32, verset 1er. Le psalmiste a dit « Heureux ». C'est lui à qui la transgression est remise et à qui les péchés sont pardonnés. Je termine avec la dernière chose alors que les musiciens avancent. La repentance tire sa source d'un endroit sacré où nous trouvons un dépôt impérissable. La repentance trouve sa source à Golgotha. Un endroit où il a versé son sang. Et chaque fois que nous nous mettons sous les bénéfices de ce sang, nous vivons ce qu'Exode 12, 23
dit.
Je verrai le sang et je passerai. Je termine avec ces trois exemples. J'étais païen. Je
ne
connaissais pas encore le Seigneur. En deuxième année, j'ai gradué à l'université. J'oublie jamais un jour. Un garçon que nous connaissions tous à l'université. La malhonnêteté faite homme. On est devant l'auditoire, on le voit venir avec une brouette. Il lui-même a compté, nous a fait compter après
78 livres.
Il dit, je viens remettre les livres de la bibliothèque de l'université. Durant ces deux ans, chaque fois que je vais revenir à la bibliothèque, je ne rentrais jamais main vide. Mais il y a deux mois, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et chaque fois que le message est prêché, je me dis, je ne peux garder ces choses. Où est la vraie repentance? Maman qui deuxième bureau, na babimaka malembe malembe. Kolo akosunga. Un frère vient témoigner un jour, bandeko alléluia. Avant na bongo la monte, mon andeko iba ba mille, mais ce qu'on a iba kara ba 100, isengote isengote. La repentance ne diminue pas les péchés, l'éradique. J'ai accepté Christ le 5 novembre 85 à
9h.
Nous ne prenions pas les petits déjeuners chez nous parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'ai passé le premier jour de ma conversion en jeûne. Après que j'ai écouté la parole annoncée par cette femme, toutes les choses que je faisais à la maison, l'argent de mon père, de son salaire que je volais, les appareils que j'allais vendre, une cousine qui un jour avait vendu une parcelle est venue faire garder l'argent, j'ai pris l'argent, m'a demandé, j'avais l'air tellement doux qu'on soupçonnait tout le monde, surtout pasteur Rémi, mais moi non. Ce jour-là, j'oublierai jamais. Je suis rentré chez nous à 9h45. Je pleurais de 9h45 à 13h. J'étais inconsolable.
J'oublie
jamais, de 16h à 17h, je me suis assis devant ma mère, Ima. J'ai dit, Ima, te souviens, tel argent, c'est moi qui avais volé. Ça faisait du bien de vomir ces choses. Je me souviens de cet appareil photo d'il y a 6 ans, c'est encore moi. À un moment, il était fâché. Il disait, mais Roland, tu étais mauvais comme ça. Je dis, tu n'as encore rien entendu. Laisse-moi continuer. Mais je peux vous dire, à la fin, 2 heures après, quand je fais sortir tout, je me sentais bien. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit se repentir. J'ai plus très bien l'année.
92,
93, je ne sais plus très bien.
92, 93,
j'étais à côté du pasteur Jacques-André Vernon un samedi. C'était un mariage. C'était pour un mariage, mais il a apporté un message évangélique fort. Les parents des mariés pleuraient. 2/5 de l'auditoire pleurait.
Le
premier commissaire d'État à une certaine époque. Je l'ai vu demander des mouchoirs 3 fois. À la fin, quand le feu pasteur Jacques-André Vernon a fini de bénir le mariage, il est allé au bureau. J'étais censé être toujours à ses côtés au cas où il aurait besoin de moi. Comme il ne m'a pas appelé, j'étais gêné. Et le protocole vient me dire, le pasteur Vernon t'appelle. J'entre au bureau, il me dit, Dalo, assieds-toi. Je vois cet homme que je ne voyais qu'à la télé, un brillant homme. Il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Il criait, je suis un pécheur. J'avais l'impression qu'on les frappait avec un fouet.
Je n'oublierai
jamais. Le feu Jacques-André Vernon lui a dit, veux-tu accepter Christ et abandonner ce style de vie? Il est resté silencieux une minute. Il a dit, je ne peux pas. Je suis allé trop loin. J'ai jamais su, c'est trop loin, voulait dire quoi? Le fait Jacques-André Vernon lui a dit, aujourd'hui t'appartiens, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai jamais oublié à la fin, les larmes coulaient de l'œil gauche, le fait Jacques-André Vernon lui a dit, saisis la main de Dieu qui est tendue vers toi. Je
le vois
pleurant encore fort. Puis il a dit, je veux, mais je ne peux pas. 10 minutes après, nous avons quitté les bureaux. 3 semaines après, il est mort tombant d'un avion. Quand j'ai pensé à ça, je pleurais. Vous savez, il y a des jours où le ciel se mobilise pour vous aider à saisir la main de Dieu. Il est possible que quelqu'un qui est ici passe ton dernier mois de vie. Continue pas à marcher dans ce style.
Et
ces cantiques de délinquants qui vont dans mon cœur.
Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Yeah.